France Culture.
Man. Comment allez-vous ce lundi?
Écoutez, ça va, et nous on parle du contraire de la liberté, on parle des prisons et des, oui. des politiques carcérales cette semaine.
Eh bien, très bonne émission.
Merci
Julie.
Beaucoup. Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Barthélémy Gaillard, Mélanie Chalandon, Gwendoline Troiano, Sacha Mattei et Antoinette Benoît, réalisé par Vivian Lecuivre, et à la technique ce matin, c'est Marie-Claire Oumabadi. Le ministre de la Justice en France, Gérald Darmanin, annonçait hier la création d'une prison de haute sécurité en Guyane après s'être aussi intéressé à la méga-prison ouverte au Salvador pour les détenus pour terrorisme. Culture Monde explore cette semaine quatre politiques carcérales, au Salvador justement, en Tunisie, en Europe aussi où les prisons sont surpeuplées. Aujourd'hui en Russie, la question des prisonniers politiques et de l'usage de la violence.
Tout le monde sait en Russie que l'on torture. Que l'on frappe, que l'on viole dans les prisons.
En fait, presque rien n'a changé dans le système pénitentiaire russe depuis le goulag. Ce système casse les gens, supprime leur volonté et les dresse.
Ici, on vit comme une meute de loups, c'est chacun pour soi, il n'y a pas d'alternative. Pour s'en sortir, certains utilisent leur tête, les autres leurs poings et les plus féroces leurs dents.
Un soir de décembre, à la nuit tombante, Fiodor Dostoïevski entrait au bagne où il devait passer 4 ans. Il foulait la cour, longue de 200 pas et large de 150, enceinte d'une palissade hexagonale dont un forçat s'employait à compter les pieux. 1500 pieux qu'il connaissait par cœur et décomptait au quotidien pour connaître exactement le nombre de jours qu'il devait encore passer dans cette maison de force. Dans Souvenir de la maison des morts, où l'on comprend que Dostoïevski raconte ses années de prison en Sibérie, il a ces mots au sujet de la torture qu'on y pratique. Il y a des gens qui sont comme des tigres, avides du sang qu'ils peuvent lécher. La tyrannie est une habitude et qui devient à la longue une maladie. Le sang et la puissance enivrent et pareille licence agit contagieusement sur la société tout entière. La société qui regarde ces choses d'un œil indifférent est déjà infectée jusqu'à la moelle. Plus de 150 ans plus tard, et les récits bien plus durs de Solzhenitsyn ou de Varlam Chamalov sur le goulag, les colonies pénitentiaires existent toujours en Russie. Parmi les 872 établissements qui composent l'univers carcéral russe, des prisons dont les effectifs ont légèrement changé depuis l'invasion de l'Ukraine en février 2022, des détenus de droit commun ont été libérés pour aller se battre sur le front, tandis qu'étaient envoyés derrière les barreaux ceux et celles qui critiquent le bien fondé de la guerre et l'attitude de l'armée russe. Ce sont des lieux où l'on peut très difficilement entrer, où les missions d'observation sont désormais de plus en plus opérées par des officiels, mais où l'on sait que la violence est omniprésente, comme en atteste les milliers de vidéos qu'a récupérées entre 2017 et 2021 un ancien détenu, Sergueï Saveliev. Pour quels motifs les opposants politiques russes peuvent-ils être jetés en prison? Quels sont les moyens de l'administration pénitentiaire contre eux en particulier? Et comment cette violence carcérale circule hors les murs et infecte la société jusqu'à la moelle, comme disait Dostoïevski? Nous en parlons ce matin avec nos invités. Bonjour Anne Le Huérou.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous. Vous êtes maîtresse de conférence à l'université Paris-Ouest Nanterre. Vous êtes spécialiste de la Russie contemporaine et vous êtes ici en studio avec Luba Jorgensen. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue, vice-présidente de l'association Mémorial France. Vous êtes professeur à Sorbonne Université, écrivain. On ne sait pas comment ça finira. C'est le titre du livre en forme d'échange, de discussion avec Léonide Girchovitch qui vient de paraître aux éditions Verdier. C'est sur notamment la guerre en Ukraine. Et vous avez publié le Semeur Dieu, sentier de Varlam Chalamov, et c'est sur celui qui fut un témoin du goulag et du système répressif soviétique. Les prisons russes, de toute époque et de quelle nature qu'elles furent, Anne Le Huérou, ont toutes eu leurs témoins, leurs grands auteurs et leurs textes magistraux, ou ce qu'on appelle aujourd'hui lanceurs d'alerte et leur disque dur. Qui est Sergueï Saveliev et qu'est-ce qu'il a donné à voir sur les prisons russes du XXIe siècle?
Bonjour et merci beaucoup de votre invitation. Donc, Sergueï Saveliev était, je crois, un détenu. Il a depuis obtenu l'asile en France, hein, et il était un détenu de du Bélarus en fait, qui avait été emprisonné pour des faits relatifs au trafic de stupéfiants. Je ne sais pas si c'était une véritable affaire ou une affaire dite fabriquée, comme il y en a beaucoup dans le système judiciaire russe. Mais le fait est que ses compétences en informatique lui ont donné accès aux ordinateurs de la prison dans lequel il travaillait.
Parce qu'il a été catapulté informaticien en chef, il se comportait bien, donc on lui a donné cette fonction-là. Il était très fort en informatique.
Tout à fait, tout à fait. Et donc ça lui a permis de copier, hein, et de faire ensuite sortir effectivement des milliers et des milliers de vidéos retraçant des violences, alors qui sont des violences qui sont commises en fait au quotidien dans un certain nombre de prisons russes, peut-être pas dans tous les établissements pénitentiaires, mais dans suffisamment d'établissements pénitentiaires, et qui sont commises à l'encontre tout autant des prisonniers politiques ou de certains prisonniers politiques que des détenus de droit commun. Et c'est vraiment cette, je dirais, cette matrice, hein, de la violence pénitentiaire russe qu'il faut comprendre, je pense, au premier chef, que ce soit dans probablement dans l'histoire du bagne de l'Empire russe que vous citiez à l'instant pour Dostoïevski, du goulag soviétique ou du système pénitentiaire post-soviétique.
Dans cette prison de Saratov, la colonie pénitentiaire numéro 10, de Saratov, où a été donc informaticien Sergueï Saveliev. On entend des témoignages dans ces milliers de vidéos, des témoignages de torture, de violences perpétrées par les gardiens, qu'elles soient physiques, sexuelles et psychologiques. L'ancien détenu Alexei Makarov, par exemple, racontait à Envoyé spécial les viols dont il a été victime dans cette prison. Attention, ce témoignage est difficile.
Ils m'ont emmené dans cette pièce, c'était vers 14h20. Ces détenus m'ont tabassé, même pas 5 minutes. Ils ont déchiré mes vêtements et tout le reste du temps, ils m'ont violé. Jusqu'à 16h30, jusqu'au contrôle du soir. Et le 15 avril au soir, on m'a violé une deuxième fois. Ils m'ont filmé et ils m'ont dit « on a un compromat sur toi ». Et si un jour tu ouvres la bouche, ou si tu déposes une plainte, on mettra tout ça en ligne sur YouTube. Et tu connais très bien les conséquences, tu sais ce que ta vie deviendra. C'est pour tenir les gens entre leurs griffes, parce qu'il y a différentes castes en prison. En commettant de tels actes, en violant quelqu'un, en le filmant, chacun sait très bien que si ça se sait, la personne concernée se retrouvera dans la caste la plus basse, celle des humiliés.
Les compromats, les chantages et la violence comme moyen de chantage, également Luba Jorgensen, est-ce que de tels types de témoignages ont pu ressortir également de tous ceux qui ont été collectés à l'époque du Goulag et que l'association Mémorial, pour laquelle, dont vous êtes membre, recueille depuis très longtemps?
Il y a des similitudes et une certaine pérennité, une certaine transmission des pratiques et même du paysage
carcéral,
pénitentiaire et concentrationnaire. Il y a aussi des différences. Alors, en ce qui concerne cette transmission, on peut tout d'abord citer la topographie, c'est-à-dire beaucoup de camps qu'on appelle aujourd'hui des colonies pénitentiaires sont situés dans des espaces autrefois dévolus aux camps du Goulag. On voit même parfois un recyclage des mêmes lieux qui restent, qui n'ont jamais cessé d'être des camps, par exemple en Mordovie, justement, ce qui permet d'ailleurs, par exemple, à l'historien Yuri Dmitriev, aujourd'hui emprisonné dans un camp de la Mordovie, pour des raisons politiques, mais avec un article de droit commun. On reviendra peut-être sur cette confusion volontaire.
C'est un spécialiste de l'histoire du Goulag qui s'était élevé contre une opération de travestissement de l'histoire par l'État russe qui tentait de faire passer des cadavres de détenus du Goulag pour des soldats russes tués par des ennemis finlandais. Il a été condamné en 2021 pour des violences sexuelles sur sa fille adoptive, ce que lui conteste, ce que sa fille aussi, je crois, conteste et ce que ses proches contestent.
Absolument. C'est-à-dire c'est une accusation infamante qui vise justement à humilier, à détruire, à délégitimer un historien auquel on doit la découverte de plusieurs chantiers de la Grande Terreur. Et il se retrouve dans un camp de Mordovie où se trouvait auparavant un camp du goulag, ce qui fait que c'est quelqu'un qui a un immense courage et qui a le projet d'étude de ce camp, c'est-à-dire qu'il vit sa détention comme une sorte de mission de recherche pour étudier ce lieu auquel il n'aurait pas accédé autrement. Il y a donc dans le paysage, il y a la punition par l'éloignement qu'on observe toujours. Beaucoup de lieux de détention sont situés dans des régions polaires ou des régions très éloignées. Et même lorsqu'ils se trouvent plus près des régions centrales de la Russie, c'est souvent à la périphérie d'une oblast, d'une région. Donc il y a cette dimension de cacher les détenus, les éloigner.
Il y a la question de l'éloignement. À l'époque aussi du goulag, s'agissait de développer et structurer le territoire, ou avant cela également, en Sibérie, on installait les prisons sur les forages pétroliers où on manquait de main-d'œuvre, par exemple, avec cette doctrine de la Perekovka, la réhabilitation par le travail, qu'on n'entend plus tellement aujourd'hui en Russie quand il s'agit de parler du travail dans les colonies pénitentiaires, me semble-t-il. En tout cas, cette question de la violence, si violence il y a dans les prisons russes, Anne Le Huérou, est-ce qu'il s'agit d'une stratégie autoritaire de l'État russe qui souhaite resserrer l'étau de son autorité sur les délinquants et les opposants, ou est-ce que cette violence se glisse dans tous les interstices de la vie carcérale parce que chaque acteur y trouve un intérêt?
Alors c'est un petit peu les deux, hein. C'est une question évidemment tout à fait fondamentale. Je pense qu'il y a effectivement Là, il faut bien comprendre qu'au moment de la perestroïka, il y a eu une ouverture de la question carcérale, de la question pénitentiaire, tout autant que l'ouverture de beaucoup de débats publics autour de la mémoire, de l'histoire du goulag, justement. Et comme à l'époque, il y avait encore des dissidents fraîchement libérés, on va dire, comme par exemple, je pense à Valérie Abramkin, par exemple, qui est décédée aujourd'hui, mais qui a fondé une association très importante sur la réforme des prisons. Et donc là, dans toutes ces transformations de la perestroïka et de la première décennie aussi post-soviétique, il y a eu au moins un effort de mise au jour, d'ouverture aussi des prisons à des acteurs, des médias, des premières organisations de droits humains, etc.
Et même pendant les premières années du mandat de Vladimir Poutine.
Alors oui,
années 2000.
Un tout petit peu après, parce que ça se gâte déjà d'une certaine façon. Mais il n'y a jamais eu, contrairement à la police qui a connu certaines formes des réformes législatives, disons, il n'y a pas eu vraiment de grandes réformes de la prison qui a toujours été attendue, même si en 92, il y a eu une première loi qui accordait effectivement certains droits aux détenus, du point de vue de la correspondance, du point de vue du droit à un avocat. Et ce qui est très surprenant, et c'est parfois difficile à expliquer quand on parle de la période toute contemporaine, avec évidemment le degré de déchaînement de violence et de répression qu'on observe, c'est que ces procédures formelles sont tout de même encore respectées dès qu'il s'agit en tout cas de détenus qui ont été jugés et qui sont transférés dans des colonies. Encore faut-il qu'ils aient été jugés et qu'ils soient transférés dans des colonies. Et là, on va effectivement pouvoir, par exemple, leur écrire avec cette digitalisation de l'administration russe en général qui est assez avancée et qui permet d'écrire par mail, qui permet de cantiner par email aussi, c'est-à-dire d'acheter des produits à condition que vous en ayez les moyens, bien sûr, et que vous soyez plutôt parmi ces fameuses castes dont votre interlocuteur faisait état à l'instant, ces fameuses castes plutôt plus élevées, d'être parmi les blatny ou les kozly, enfin donc les privilégiés ou les boucs qui sont les plus en cours, on va dire, auprès de l'administration pénitentiaire, des catégories de détenus. Alors voilà, pour revenir à votre question sur le travail, aujourd'hui c'est assez difficile évidemment d'avoir accès à des données sur la question du travail en prison. Il est évident, Lyuba pourrait le dire mieux que moi, que à l'époque du goulag, et vous l'avez dit aussi vous-même, la topographie des colonies pénitentiaires a suivi le développement économique russe. On se souvient du canal de la Mer Blanche, par exemple, où en effet, suivre la trajectoire des forages pétroliers ou du transsibérien pour effectivement pouvoir avoir une main-d'œuvre évidemment à bon marché, quasiment parfois réduite à l'esclavage. Et aujourd'hui, on retrouve alors des formes effectivement de travail qui parfois s'apparentent à du travail de type vraiment esclavage, qui est du travail informel en fait. Alors il y a le travail formel qui peut être quasiment obligatoire effectué par les détenus, qui souvent sert aussi pour eux à rembourser les dommages et intérêts auxquels ils ont été condamnés au civil dans le cadre de leur peine par exemple. Et puis il y a aussi bien sûr le travail qui est fait de manière informelle pour le compte de l'administration pénitentiaire, qui là évidemment c'est vraiment des phénomènes de corruption tout à fait généralisés qui se manifestent.
On estime le chiffre d'affaires des colonies pénitentiaires russes à l'équivalent de 800 millions d'euros en 2015, même si on sait aussi que c'est pas totalement efficace pour l'économie. Bay Jurgensen, l'acheminement des produits ensuite coûte cher. Voilà. Mais est-ce que la politique carcérale de la Russie dépend de considérations économiques?
C'est une grande différence par rapport à l'époque stalinienne et au goulag. À l'époque, le goulag était un des principaux acteurs économiques et l'économie soviétique était impensable. En fait, elle tenait vraiment sur le goulag qui avait été créé notamment pour gérer un certain ensemble d'entreprises et gérer des territoires entiers. Via les entreprises comme le Dalstroy, par exemple, qui gérait toute la région de la Kolyma. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est-à-dire la part de la production des lieux de détention dans l'économie générale n'est pas aussi considérable. Mais on peut observer, par exemple, une certaine continuité, là encore, dans le fait que des prisonniers de droit commun ont été envoyés au front en Ukraine. Et c'est une pratique qui a été inaugurée pendant la période soviétique, où justement, notamment des criminels du milieu, enfin des criminels organisés avaient été envoyés au front et avaient combattu, parfois d'ailleurs avec héroïsme. Cette mesure avait suscité un des épisodes les plus sanglants du goulag, à savoir la guerre entre ceux qui avaient été au front, donc avaient servi l'État, et les voleurs dans la loi qui refusaient absolument de servir l'État. Voilà, aujourd'hui on assiste, donc c'est peut-être disons que l'État n'hésite pas à réutiliser les pratiques qui ont, pour ainsi dire, fait leur preuve dans le temps.
Et ces voleurs dans la loi que vous citez, ils sont aujourd'hui, ils font partie de ceux qui perpétuent la violence dans les prisons, violence qui est le fait des directions de prison, des surveillants, mais aussi des prisonniers eux-mêmes. Quand l'administration leur délègue une partie de la gestion de l'ordre carcéral, ce sont donc ces voleurs dans la loi ou forfaconniers qui bénéficient d'un statut privilégié, comme le raconte cet ancien détenu condamné pour meurtre.
Si tu croises un forfaconnier, tu te rends compte qu'il peut sortir de sa cellule, circuler librement dans les couloirs, ouvrir les cadenas et les serrures. Tu comprends qu'il est au-dessus de toi, que rien ne peut l'atteindre. C'est ça, être un voleur dans la loi. Mais aujourd'hui, c'est moins clair. Le moindre petit malin qui débarque en prison se prétend voleur dans la loi, alors qu'il n'a encore rien vu de la vie.
Les voleurs dans la loi, est-ce qu'ils existent, Anne Le Huérou, dans toutes les prisons aujourd'hui, en Russie ?
Alors, je pense qu'il est difficile de répondre à cette question aujourd'hui en raison, bien sûr, de la grande difficulté d'accès aux établissements pénitentiaires. Alors, c'est vraiment la question des voleurs dans la loi était une donnée, en effet, du système carcéral soviétique et russe qui a été beaucoup dénoncée et mise en image, je dirais, par des séries télévisées, des films, des romans, justement à l'époque où on pouvait commencer à en parler, hein, donc c'est-à-dire pendant la perestroïka et à la fin de la période soviétique, avec donc cette distinction entre les fameuses prisons noires, donc qui auraient été complètement sous la coupe de ces voleurs dans la loi, et les prisons rouges qui sont celles tenues par l'administration pénitentiaire. Mais je crois qu'il faudrait peut-être pas trop insister sur cet aspect, parce que moi il me semble que cet aspect a aussi tendance à minimiser la part de responsabilité de l'administration pénitentiaire, de la violence institutionnelle, de la violence violence de l'État et a un petit peu folklorisé le phénomène. Vous voyez, donc autour, il y a eu des dizaines de livres sur les tatouages, sur que représentaient les tatouages, sur ces fameuses castes dans les prisons. Loin de moi l'idée de dénier leur existence, hein, bien sûr, et on a encore vu il y a quelques mois, enfin en 2023, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la Russie, parce que la Russie est sortie de la Cour européenne des droits de l'homme, mais elle peut encore répondre des actes commis avant sa sortie en septembre 2022. Comme les délais de justice sont très longs, il y a encore beaucoup d'affaires pendantes, comme on dit. Et il y a donc 12 de ces détenus de cette caste, justement, qu'évoquait aussi votre interlocuteur de tout à l'heure, qu'on peut appeler effectivement les humiliés, les rabaissés ou les parias, bon, selon les termes, pour lesquels, disons, en raison du fait que l'administration pénitentiaire a été condamnée pour ne pas avoir été capable de mettre fin aux violences commises, justement, soit par les co-détenus, ces fameux vorev zakonye, mais en général, les voleurs dans la loi, eux, ne s'abaissent pas à être ceux qui commettent les actes. Bien sûr, eux, ils sont les seigneurs, en quelque sorte, de la prison. Et je dirais que il me semble que ce terme est aussi revenu un petit peu aux oreilles, on va dire, du grand public, y compris en France, hein, à la faveur de certaines arrestations. Et maintenant, on parle aussi de bandes de criminalité organisée qui viennent des pays de l'Est, justement, en segment soviétique. Je pense en particulier à la Géorgie, par exemple, hein, et qui ont été arrêtées en France pour des trafics assez massifs et qui sont effectivement qualifiées de voleurs dans la loi. Mais voilà, ne pas mysticiser trop ce phénomène.
Et ne pas le folkloriser, comme vous dites, ça reviendrait à invisibiliser la responsabilité de l'administration pénitentiaire russe qui, elle, de son côté, donne des gages en disant, regardez, on a maintenu les commissions d'observation des prisons qui avaient été instaurées en 2008 à un moment d'ouverture où on disait, il faut faire un petit peu comme l'Agence internationale de l'énergie atomique fait pour les centrales nucléaires en Iran, c'est des visites impromptues, ensuite des rapports très détaillés sur ce qui s'y passe. Donc la Russie dit, on continue ses missions. On instaure des lois comme là très récemment en 2020 une procédure d'indemnisation en cas de mauvaises conditions de détention et également une autre loi qui instaure le droit pour les prisonniers d'être détenus dans des établissements à proximité de leurs amis et de leurs familles. Que faut-il penser de ces lois, Luba Jorgensen? Est-ce qu'elles sont appliquées de ce qu'on en sait?
Alors là encore, c'est difficile de le savoir parce qu'on n'a pas toujours les informations.
Vous travaillez beaucoup vraiment avec les ONG, y compris russes.
Alors,
c'est très important pour
moi. Et ces ONG, et notamment aussi l'ONG OVD Info, qui publie en français des données, donc voilà, qu'on peut consulter, que les auditeurs francophones peuvent tout à fait consulter, et qui a établi une carte, notamment des lieux pénitentiaires en fonction de l'accessibilité des informations. Donc on sait, et en fait on se rend compte qu'il y a que la plupart de ces lieux lâchent très très difficilement les informations. Et peut-être qu'on peut dire aussi que alors ces lois, donc il y a sûrement des lieux où je pense qu'on ne peut pas généraliser, hein, ces lois peuvent être respectées dans un lieu, ne pas être respectées dans un autre, respectées aujourd'hui, ne pas être respectées demain. Mais il existe en fait des instruments pour détruire un prisonnier si le pouvoir veut le faire, au détour de ces lois. Par exemple, il faut rappeler qu'il existe différents régimes de détention. Il y a les colonies à régime sévère, à régime ordinaire et à régime léger. Et d'ailleurs, ça mérite aussi d'être mentionné parce que ce sont des espèces de colonies, effectivement, de villages, de peuplements qui semblent aussi, dont l'existence fait penser aussi à cette masse de déportés spéciaux à l'époque soviétique qui n'étaient pas comptabilisés comme des détenus du goulag et qui étaient des peuples entiers, des communautés entières, femmes, enfants, tout le monde, et qui, dont la population s'élevait à des millions de gens avec des conditions parfois plus dures que dans les goulags. Bon, mais là, il s'agit de régimes plus légers où les détenus peuvent circuler, par exemple, avec autorisation, bien sûr. À côté de ça, il y a dans les colonies, il y a des isolateurs. qui sont en fait des cachots. Et si on veut vraiment la peau d'un détenu, on va le multiplier ses séjours dans les isolateurs ou en cellules d'isolement, donc avec un régime beaucoup plus dur. On va lui interdire les visites, on va lui interdire les colis, on va lui interdire la correspondance, on va lui faire en sorte qu'il ne reçoive pas les médicaments qu'on lui envoie. Et s'il a un régime particulier, s'il est malade, il ne pourra pas suivre le régime prescrit par les médecins. On va interdire la visite du médecin, on va couper son lien avec son avocat. Donc il y a 1000 outils qui se greffent sur cette pseudo-légalité qui permettent de contourner toutes ces lois protégeant les prisonniers.
Interdire d'accès aux soins des détenus qui, pour beaucoup, sont atteints de tuberculose, de sida. Ce sont des maladies qui circulent beaucoup dans les prisons en Russie. Anne Huérou, vous souhaitiez ajouter quelque chose?
Oui, tout à fait. Alors, sur cette question de la médecine pénitentiaire, c'est vraiment important. Et c'est un point sur lequel, justement, ces ONG de défense des droits des prisonniers et des droits pénitentiaires avaient essayé d'insister pour que, par exemple, ce soit des médecins civils et pas des médecins eux-mêmes qui puissent avoir accès aux détenus, et que parce qu'en fait on se rend compte que personne ne veut devenir médecin dans les prisons, parce que c'est pas compté dans votre carrière, parce que ça vous voilà, enfin faut être un missionnaire, je dirais, pour pouvoir être médecin dans le système pénitentiaire. Donc les conditions sont terribles, et il y a en effet toutes ces manières de contrevenir en fait aux lois qui sur le papier sont des lois qui semblent respecter les droits des détenus, avec tout ce qui est système dérogatoire, en particulier effectivement ces cachots, cellules d'isolement, à ce qu'on appelle le mitard dans le vocabulaire pénitentiaire français, alors qui sont des catégories qui existent aussi, hein, et qui sont vraiment des stratégies punitives et qui ont été évidemment, par exemple, elles ont été utilisées, je sais pas combien de dizaines de fois à l'encontre de Alexei Navalny. Et alors il y a une autre phénomène qui est aussi très important et qui là opacifie complètement le système pénitentiaire, c'est les mois entiers pendant lesquels se déroule ce qu'on appelle étape, c'est-à-dire le transfert des détenus depuis leur lieu de détention provisoire jusqu'à leur lieu de détention définitive. Et là, je pense qu'il y a des similitudes avec ce que ça pouvait être à l'époque du soviétique, où pour des raisons qui sont absolument pas justifiées matériellement, on va transporter les détenus dans les trains qui vont s'arrêter dans des lieux inconnus. Et là, plus personne n'a de nouvelles, ni avocat, ni famille, personne ne sait où ils sont. On vous dit juste, ils sont en transfert. Et ça peut durer des mois, et ils n'ont pas de médicaments, et ils n'ont évidemment aucun accès à leur dossier, etc.
Alors maintenant, parmi tous ces détenus, ces dizaines de milliers de détenus en Russie, et je précise que la surpopulation carcérale n'a pas cours en Russie, puisque d'après les chiffres qu'on a, c'est une densité carcérale de moins de 67 détenus pour 100 places, qui est bien en dessous de la moyenne européenne à 82, un budget pénitentiaire à 3,72 milliards d'euros en 2020. En revanche, le coût d'un détenu pour l'administration, c'est 2,63 € par jour contre 41 en Europe. Voilà pour les quelques chiffres dont on dispose. Parmi tous ces prisonniers, combien de prisonniers politiques en tant que tels? Et à ce sujet, Luba Jorgensen, c'est intéressant de voir que les ONG que vous citiez tout à l'heure n'ont pas toutes la même définition d'un détenu politique. Donc vous, chez Mémorial, comment vous définissez ce que c'est qu'un détenu politique en Russie aujourd'hui, en 2025?
Eh bien, c'est effectivement, ce n'est pas toujours facile. Ça fait objet de débats. Il y a des peines. Alors, on peut, si vous voulez, il y a des personnes condamnées pour des crimes politiques, crimes politiques définis par le code pénal russe. Par exemple, le terrorisme, où on peut dire que la discrimination de l'armée fait partie des crimes, enfin des soi-disant crimes politiques.
La critique de l'armée, vous voulez dire, ou la discrimination de l'armée?
La discréditation de l'armée. C'est-à-dire, en fait, toute critique de l'armée, ou toutes les protestations anti-guerre, évidemment, qui ont entraîné 3500 interpellations depuis le début de la guerre, enfin le début de l'invasion, et avec un peu plus de 1600 condamnations, Hein. Donc ça, c'est quand même un chiffre considérable. Mais à côté de ça, il y a beaucoup d'autres accusations politiques qui se sont multipliées ces derniers temps. Si, par exemple, dans les années 2000 ou les années 10, les crimes politiques étaient souvent amalgamés avec des crimes économiques, hein, comme par exemple dans la condamnation de Khodorkovsky, qui était en fait un détenu politique, mais condamné avec un article économique.
Pardon, à ce sujet, c'est intéressant. Il y avait eu un vrai débat à l'époque, puisqu'Amnesty International refusait de le considérer comme prisonnier politique en disant qu'il est reconnu coupable de fraude, donc on ne peut pas l'inclure à nos effectifs. Je ne sais pas si l'ONG a changé d'avis depuis.
Oui, il me semble que ça avait évolué et qu'il avait été... je ne sais plus.
En tout cas, il y avait eu débat.
Et
les ONG, en fonction de plusieurs critères, mais elles essayent plutôt de se mettre d'accord aujourd'hui en disant le plus important, c'est dire qu'il y a plus d'un millier de prisonniers politiques en Russie aujourd'hui.
Oh, il y en a
et
beaucoup
je voulais
plus.
Beaucoup plus. J'avais 1300.
Oui, autour de 1500. Oui, mais il y a. Je pense que ce qui est important, c'est que les ONG qui font ce décompte tiennent à ce que leurs chiffres soient exacts. Hein, et donc font vraiment un travail de discussion avant de déclarer quelqu'un prisonnier politique. Il y a toute une procédure de discussion en lien avec effectivement le droit international, avec la Convention européenne des droits de l'homme et donc les définitions du Conseil de l'Europe qui sont suivies par exemple par Mémorial ou par d'autres organisations. Après, il y a des différences de chiffres qui tiennent au fait qu'on compte en flux, entre guillemets, ou en stock, c'est-à-dire on compte le nombre de gens qui ont été arrêtés depuis telle date, ceux qui sont emprisonnés réellement à une date donnée, ceux qui sont en attente de leur procès et en détention provisoire. Donc ça explique que les chiffres peuvent varier, mais de toute façon, il y en a bien sûr beaucoup plus qu'avant. Et je ne sais plus qui, fin 2022, dans une conférence, ou peut-être fin 2021, je ne sais plus, au centre Sakharov, une des personnalités encore en Russie à l'époque citait qu'il y avait plus de détenus politiques en Russie aujourd'hui que lorsque Mikhail Gorbatchev, pendant la perestroïka, a libéré les derniers dissidents politiques.
Luba Jurgensen, j'ai coupé le cours de votre réflexion.
Non, mais je suis tout à fait ce que vient de dire Anne Luirou. Ce qu'on peut peut-être mentionner, c'est effectivement la multiplication de nouveaux articles ou de nouveaux paragraphes d'articles qui visent vraiment à criminaliser des comportements en fait de qui relèvent de la société civile et qui conduisent à la destruction de celle-ci et qui rappellent aussi des pratiques certaines pratiques soviétiques et à côté de cette donc il y a des articles aussi qui nous renvoie vers le passé, comme le sabotage, par exemple, ou ne serait-ce que la dénomination, l'étiquetage de certaines ONG et aujourd'hui aussi de personnes physiques comme agents de l'étranger. Bien sûr, ça nous rappelle aussi l'époque stalinienne. Et ce qui a changé aussi, enfin ce qui évolue aussi, ce sont les peines prononcées contre ces personnes inculpées, à savoir, on a vu les peines, maintenant, on a des peines de 15, 16, 20, 25 ans, 27 ans même, donc ce qui est presque la perpétuité, en fait, des peines très très lourdes prononcées pour des délits mal définis et qui paraissent absurdes.
Et des détenus qui, pour certains, croisent parfois le parcours de soldats ukrainiens envoyés dans des prisons russes quand ils ont été faits prisonniers. Par exemple, ce jeune soldat de 26 ans fait prisonnier à Mariupol en mai 2022. C'est un extrait d'un reportage de la rédaction de Boris Loumagne sur France Culture en septembre dernier. Et lui, il est sorti à l'issue d'un échange de prisonniers et il raconte ce qui s'est passé dans les prisons russes.
En été, il faisait chaud. En hiver, il faisait froid. Cette prison était vétuste. 3 repas par jour, mais bon, même les enfants mangent plus que ça. Et puis surtout, des jours entiers debout. C'était interdit de s'asseoir, de 6h du matin à 22h, debout. On ne pouvait s'asseoir que pendant le repas, sinon ils te frappaient le matin, le soir. La première semaine, c'était très dur. Après, je me suis habitué. J'avais vraiment les jambes grosses comme ça, toutes gonflées. Et aujourd'hui, j'ai besoin d'un traitement contre les varices.
Extrait donc d'un reportage de rédaction de France Culture, Anne Huérou.
Vous lisez deux choses sur ce sujet, bien sûr. Alors il y a la question des prisonniers de guerre ukrainiens en Russie. Alors ils ne croisent pas les détenus politiques russes parce qu'ils sont dans des justement détenus de manière spécifique aussi pour qu'ils ne puissent pas avoir accès aux détenus russes, qu'il ne puisse pas y avoir d'informations qui sortent. Et c'est une des données du problème. Et donc là, bien sûr, la personne qu'on vient d'entendre décrit, et il y a malheureusement des centaines de témoignages de la sorte. Mais dans le cas des prisonniers de guerre, il y a quand même un relatif respect des conventions du droit humanitaire international et des échanges de prisonniers, comme il y en a encore eu il y a quelques jours, 1000 pour 1000, à l'issue de ces fausses négociations d'Istanbul. En revanche, il y a entre 16 et 20 000 détenus civils ukrainiens qui ont été arrêtés lors des premières semaines de l'invasion russe dans le nord de l'Ukraine ou bien dans les territoires occupés et qui sont aujourd'hui détenus pour la plupart incommunicado, soit encore dans les territoires occupés, soit dans d'autres centres de détention à l'intérieur de la Russie, et dont on n'a que quelques nouvelles par lorsque ils ont pu être pour certains condamnés et que du coup ils sont en quelque sorte légalisés en passant dans le système judiciaire russe, et à ce moment-là ils vont avoir accès à ça concerne quelques dizaines et malheureusement il y a quelques cas emblématiques comme cette journaliste Victoria Rochi dont le corps a été finalement restitué à sa famille et donc à l'Ukraine et qui porte des traces évidentes de torture et donc qui est un cas véritablement emblématique, mais vraiment de milliers, si ce n'est de dizaines de milliers de cas de prisonniers ukrainiens. Et il y a une campagne tout à fait importante qui s'appelle People First, dont Memorial et Memorial France est partie prenante, qui aujourd'hui vraiment s'engage dans un plaidoyer auprès des plus hauts dirigeants de la planète pour que la question des prisonniers, qu'ils soient militaires ou civils, figure au premier chef des négociations.
Donc des civils et des militaires ukrainiens qui aujourd'hui font l'expérience des prisons en Russie pour la société russe. Pour conclure cette première partie, Luba Jorgensen, comment est-ce qu'on mesure le poids que représente aujourd'hui pour chacun et chacune en Russie la menace de se retrouver un jour en prison? Vous qui êtes né en Russie en 1958, qui en êtes parti en 2010... Non, vous n'êtes pas né en Russie? Si, c'est ça.
Je suis né à Moscou.
Né à Moscou en 58, vous êtes parti en 2018, il y a 7 ans. Quelle place...
Non, je suis partie en 75.
Pardon. Et bien alors pourquoi... Vous y êtes retournée en 2018 en Russie.
C'était la dernière fois que je suis allée. C'était mon dernier voyage.
Comment vous avez vu évoluer ce fil de la peur, à la fois quand vous étiez petite et en 2018? Entre-temps, Vladimir Poutine, quand il a pris le pouvoir dans les années 2000, il a dit on va couper ce fil de la peur. Les Russes ne doivent plus avoir peur de partir en prison.
Alors, il y a un adage russe qui dit ne jure jamais que tu n'iras pas en prison et que tu n'auras pas la besace du mendiant. Et cet adage, il vient d'avant la révolution de 17. Donc il y a toujours moi j'ai grandi à une époque où effectivement la répression ne frappait pas tous azimuts, mais uniquement les personnes qui étaient s'exprimaient publiquement, qui exprimaient leurs opinions contraires à l'idéologie officielle. Donc si on se taisait, a priori, on ne risquait pas la prison. Mais il y avait toujours cette peur d'être entendu par un voisin, d'être dénoncé, d'être... toujours la peur de la prison. Et lors de mon dernier voyage en 2018, j'ai été en Carélie, à Saint-Darmorx, ce lieu de mémoire que vous avez évoqué tout à l'heure.
En Carélie, c'est vraiment à la frontière avec la Finlande.
C'est cela. Et c'était Yuri Dmitriev venait juste d'être arrêté une deuxième fois. Et j'ai senti cette peur partout autour. Et j'ai visité ce charnier dont il était question tout à l'heure, hein, que l'État cherche à requalifier comme lieu d'assassinat de soldats soviétiques. Donc j'ai visité ce lieu avec le directeur du musée ethnographique de Medvegorsk. qui m'a dit « Surtout ne parlez pas de moi, parce que je ne veux pas partager le sort de Dmitriev ». Et quelques mois après, il a été arrêté, il est mort en prison.
Постой, паровоз, не стучите колеса. Кондуктор, нажми на тормоза, и я к маменьке родной, больной и голодной. Спешу показаться на глаза. Не жди меня, мама, хорошего сына, а жди мошенника вора. Меня засосала тюремная трясина, и жизнь моя вечная тюрьма.
La voix de Dina Vierny, chanteuse d'origine moldave qui vécut en France, s'engagea dans la résistance et qui, de retour en Russie, sous la période d'ouverture de Khrouchtchev, rencontra des prisonniers de droit commun, des rescapés du goulag rentrés de Sibérie. Elle chante ici leur témoignage « Maman ne m'attend pas ». N'attends plus le gentil garçon que j'étais, attends-toi à un escroc et un voleur. Le sable mouvant de la prison m'a englouti. Briser l'individu, maintenir le système, c'est le premier épisode de notre série sur les politiques carcérales, aujourd'hui en Russie et au Bélarus.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Das war Folter.
C'était de la torture, c'est clair, parce que la température dans la cellule était si basse qu'on ne pouvait pas dormir la nuit. Il n'y avait pas de literie. Il faisait froid, il fallait se lever toutes les 10 minutes pour se réchauffer.
Natalia Gersh, opposante du Bélarus passée par la prison, est désormais réfugiée en Allemagne. D'autres ont trouvé l'exil en Pologne, mais 1300 opposants politiques sont toujours derrière les barreaux, selon les associations qui les suivent. 1300, soit presque autant qu'en Russie, pour une population 15 fois moins nombreuse. Bonjour Olga Gilbelova.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes maîtresse de conférence à l'université Bordeaux-Montaigne. Est-ce qu'il existe un délit ou un crime d'opinion au Bélarus, ou est-ce qu'il faut trouver toujours un autre chef d'inculpation quand il s'agit d'arrêter un opposant ?
Écoutez, la législation biélorusse a évolué surtout depuis donc la 5e réélection très contestée d'Alexandre Loukachenko en 2020. Jusqu'à cette date, souvent, ce sont les articles surtout liés au désordre public ou le hooliganisme qui ont été utilisés pour arrêter les personnes donc, qui exprimaient une contestation des pratiques politiques du pouvoir. En revanche, c'est suite aux événements de 2020 qu'il y a eu des modifications qui étaient apportées, notamment en mai 2021, dans deux lois. Donc, une loi qui existait depuis 2012, deux sur la lutte contre le terrorisme et une deuxième qui a été adoptée en 2007 sur donc la lutte contre l'extrémisme et les modifications donc apportées en 2021 dans la deuxième loi et en 2022 dans la première ont permis cette fois-ci déjà condamner plusieurs personnes. Donc la majorité des personnes qui sont condamnées, qui sont en prison actuellement, sont condamnées en vertu de ces deux lois.
Donc la justice aujourd'hui ne s'embarrasse plus au Bélarus de trouver des chefs d'inculpation détournés et mobilise des motifs comme atteinte à la sûreté de l'État, terrorisme, trouble à l'ordre public. Les jeunes et moins jeunes d'ailleurs manifestants qui avaient déferlé dans les rues en 2020 lors du soulèvement contre le sixième mandat d'Alexandre Loukachenko, pour celles et ceux qui avaient alors été envoyés en prison, est-ce que beaucoup y sont toujours ?
Oui, même s'il y a eu un certain nombre de personnes qui a été libérées, notamment en 2024, il y a plus de 200 personnes qui ont été libérées dans l'espoir d'Alexandre Loukachenko de faire en fait avoir un retour de la part des institutions internationales, notamment de l'Union européenne, en présentant ça comme un geste de bonne volonté. Mais la majorité des personnes sont détenues. Même, il faut aussi mentionner le fait que beaucoup de personnes ont été condamnées par contumace, comme par exemple les leaders de l'opposition comme Svetlana Tikhanovskaya ou Pavel Latushko. En revanche, les personnes qui ont été arrêtées sur le territoire de Bélarus donc restent toujours dans les prisons.
Ces dernières semaines, des prisonniers comme Viktor Babariko, l'ancien rival d'Alexandre Loukachenko pour la présidentielle de 2020 qui avait été arrêté en pleine campagne, ou encore une autre figure de la résistance au pouvoir biélorusse, Maria Kolesnikova, sont apparus furtivement sur des photos de propagande diffusées par le régime, parce que c'est aussi comme ça beaucoup que fait le Alexandre Loukachenko ou l'administration pénitentiaire au Bélarus, c'est de demander aux détenus de donner de leurs nouvelles, parfois de dire qu'ils sont bien traités, et voire jusqu'à coopérer aussi avec les autorités.
Oui, même si dans les faits, souvent parmi les moyens de pression, il s'agit de en fait, d'interdire ou de rendre difficile l'accès aux détenus, le couper complètement de possibilités de contact avec ses proches, notamment ce qui était le cas de Maria Kolesnikova, dont les proches n'ont pas eu de nouvelles pendant quelques années. Et puis de temps à autre, le régime va essayer de les exhiber pour montrer qu'ils sont toujours en vie déjà, donc et plutôt montrer que finalement les conditions de détention ne sont pas aussi terribles qu'on pourrait le prétendre.
Donc pour préserver les apparences. Autant la justice ne s'embarrasse plus, nous disiez-vous, de trouver des motifs fallacieux pour enregistrer, pour condamner des opposants, autant l'administration pénitentiaire s'embarrasse de répondre à l'ONU quand celle-ci alerte sur la pratique de la torture dans les prisons du Bélarus, essaye de sauver les apparences en quelque sorte.
Oui, tout à fait. Et surtout qu'il faut savoir aussi que ces prisonniers politiques sont perçus aussi comme une forme de monnaie d'échange, notamment par exemple pour négocier la fin de sanctions. Donc ça peut être quelque chose, un argument que Alexandre Loukachenko pourrait utiliser. De ce point de vue, il a tout intérêt de les maintenir, en tout cas en vie, pour essayer de négocier par la suite leur libération contre d'autres types d'avantages, comme par exemple la fin des sanctions à l'égard du régime biélorusse.
C'est ce qu'il a déjà fait, Alexandre Loukachenko. Il est quand même en poste depuis 1994. Il a eu plusieurs occasions d'utiliser des prisonniers comme monnaie d'échange.
Tout à fait, même si officiellement les prisonniers politiques n'existaient pas jusqu'à 2020. Il y a eu beaucoup de contestations de sa réélection en 2010 et tous les candidats de l'opposition ont été par la suite arrêtés, ont été en prison, et au moment de l'apaisement de relations avec l'Union européenne, quelques années plus tard, leur libération a servi effectivement un des arguments, une de monnaie d'échange.
Peut-être pour conclure, Olga Gilbelova, est-ce que le travail en prison dont on parlait pour la Russie existe aussi au Bélarus ? Est-ce qu'il est aussi structurant pour l'économie du pays ?
Il existe parce que le système biélorusse est aussi l'héritier de ce système soviétique, donc il y a les colonies de rééducation par le travail. En revanche, la contribution dans l'économie reste relativement faible, même s'il y a ce travail forcé et les détenus touchent à peu près 1 euro par mois pour leur travail, mais souvent ils sont utilisés dans les tâches extrêmement ingrates, absurdes. Et par exemple, parmi des tâches les plus absurdes, on évoque le nettoyage de territoire. Il faut disperser l'eau qui s'accumule dans les flaques. Parfois, même quand il pleut, il faut nettoyer ces flaques. Donc souvent, c'est quelque chose qui tourne vraiment à l'absurdité, même si souvent ces personnes sont utilisées dans le travail qui est dangereux, dans les conditions dangereuses sur les sites industriels.
Et ce centre de détention pour femmes à l'est du Bélarus où les détenus doivent coudre et fabriquer des uniformes pour les forces de l'ordre, pour l'équivalent de 8 euros par mois au maximum, elle cousent les uniformes de ceux qui ont contribué à les arrêter. Merci beaucoup Olga Gilbelova d'avoir été avec nous, maîtresse de conférence à l'université Bordeaux-Montaigne. Sur ce travail en prison, est-ce qu'il y a en Russie des tâches aussi absurdes que celles que vient de nous décrire Olga Gilbelova, vider des flaques, ou est-ce qu'il y a quand même l'idée qu'il faut contribuer à servir la société, à servir la nation?
Alors, vider des flaques, je ne sais pas, mais comme le disait Lou Bergensom tout à l'heure, je pense que l'idée qu'on est dans une contribution majeure à l'économie russe est terminée depuis longtemps. Peut-être que ça pourrait, mais là encore, on manque vraiment de données. Il faudrait bien sûr pouvoir en obtenir sur le fait que aujourd'hui, dans un système d'économie de guerre, donc à nouveau d'une économie extrêmement mobilisée et où l'industrie militaire tourne à plein, évidemment en raison du front en Ukraine, et qu'il y a quasiment un manque de main-d'œuvre en fait dans beaucoup de secteurs, il serait possible effectivement que certains prisonniers soient utilisés pour travailler pour ces industries militaires, ou qu'on leur fasse miroiter une remise de peine s'ils acceptent d'aller travailler dans telle usine. Mais on est aussi dans une situation, comme vous l'avez dit tout à l'heure, où en fait le taux d'incarcération qui, jusqu'aux années 90, c'était un des plus élevés du monde en Russie, a aujourd'hui beaucoup baissé. Parce qu'il y a eu une politique d'amnistie successive qui a un peu fait ersatz de politique pénitentiaire, hein, qui a évité de changer la politique pénale, qui a évité de faire une réforme de la prison en bonne et due forme. Et puis aussi parce que depuis 2022, hein, il y a effectivement, il y a des chiffres qui varient entre 50 000 et 150 000, mais c'est quand même énorme, prisonniers qui auraient été envoyés au front, que ce soit avec la fameuse société militaire privé Wagner, sur laquelle là encore des ONG très courageuses ont alerté dès le printemps 2022, ou bien avec le ministère de la Défense et des contrats, et où aujourd'hui, le 5 du mois, dans les centres de détention provisoire, il y a une collusion entre l'administration et le commissariat militaire pour aller recruter des personnes qui peuvent ensuite bénéficier d'amnistie, hein, en fonction des crimes qu'elles ont commis, et qui donc vont aussi être dans cette logique de reproduction de la violence à la fois subie, commise, recommise ensuite sur le front, au retour du front ukrainien, qui est lui-même bien sûr un lieu de violence extrême.
Donc des centaines de détenus russes qui ont été envoyés sur le front, mais ce qui ne suffit sans doute pas à expliquer pourquoi le taux de population carcérale est aussi peu élevé, parce que par ailleurs, en parallèle, Luba Jorgensen, des centres pénitentiaires et des prisons ont fermé à tour de bras dans certains villages ou certaines oblasts. Certains sont battus pour empêcher la fermeture d'une colonie qui faisait vivre le territoire, qui faisait marcher les fermes et les usines. C'est un peu la même logique ici en France que quand on ferme une caserne. Beaucoup des élus ont dit ne fermez surtout pas, mais beaucoup de centres ont fermé en réalité. Luba Jorgensen, comment l'expliquer?
Écoutez, je n'ai pas d'explication scientifique, mais il me semble aussi qu'il faut que la population carcérale reste malgré tout en Russie bien plus élevée proportionnellement que dans d'autres pays, d'autres pays d'Europe.
Vous voulez dire par rapport à la population globale?
Par rapport à la
globale.
France, par rapport à la population globale. Donc c'est quand même peut-être que ce taux de détention s'explique aussi par l'immensité de l'espace dans lequel ces centres pénitentiaires sont disséminés.
Et d'autres qui ont ouvert entre-temps, Cresti 2 par exemple, ouvert en 2017, 4000 places, à peu près autant de membres du personnel. Ce sont ces prisons de très haute sécurité, trois en tout, qui ont été construites ces dernières années en Russie. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été avec nous dans Culture Monde. Anne Le Huérou, je mentionne un article que vous aviez écrit dans la revue Champ Pénal sur le sujet et dont nous mettons le lien sur le site de Culture Monde, le recours au droit dans la lutte contre les violences pénitentiaires. Luba Jorgensen, votre tout dernier livre qui vient de sortir, là, c'était il y a 2-3 jours, On ne sait pas comment ça finira, discussion avec Leonid Gershovitch aux éditions Verdier. Merci beaucoup, c'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale, Catherine Dutu.
Au Portugal, Catherine, la droite au pouvoir remporte les législatives d'hier, mais elle est loin d'obtenir la majorité à l'Assemblée, alors que le parti d'extrême droite fait une nouvelle poussée dans les urnes. À se demander si ce n'est pas lui le grand gagnant de ces législatives, écrit le quotidien portugais Journal des Noticias. Chega, le parti anti-immigration, obtient à cette heure le même nombre de sièges que les socialistes, 58 pour chaque formation, sur un total de 230. Chega pourrait même devenir la deuxième force du Parlement au Portugal et donc le premier parti d'opposition s'il remporte dans les jours à venir des circonscriptions de l'étranger, explique le Journal des Noticias. Et c'est un tour de force pour un parti créé il y a 6 ans seulement, rappelle le quotidien portugais Publico. Mais ce qui marque aussi bien le journal portugais Expresso que le Financial Times à Londres, c'est que l'extrême droite portugaise brise le duopole bipartite entre la droite classique et la gauche. Un peu comme Vox, son compagnon idéologique de l'autre côté de la frontière en Espagne, le parti portugais Chega casse également le mythe selon lequel l'histoire des dictatures des deux pays les aurait vaccinés contre les politiciens d'extrême droite, analyse le Guardian. Un changement radical de la politique portugaise depuis la révolution des œillets en 1974, confirme El País. Le quotidien espagnol s'interroge, lui, sur l'enterrement définitif du bipartisme, comme ce que l'on a déjà pu observer en Allemagne, en Suède, en Finlande, en Belgique, ajoute le Financial Times. C'est en tout cas ce qu'a clamé hier soir André Ventura, le leader populiste de Chega.
Nós hoje podemos declarar oficialmente perante o país todo e com segurança que acabou o bipartidarismo em Portugal.
Aujourd'hui, nous pouvons officiellement déclarer devant tout le pays que le bipartisme est fini, a déclaré André Ventura dans un discours relayé par la RTP, la radio-télévision publique portugaise, et par le site du quotidien Expresso. Le leader populiste de Chega reconnaît que son parti n'a pas gagné ces élections, mais il l'affirme sous les applaudissements de ses partisans en liesse. Nous sommes entrés dans l'histoire parce que nous avons mis fin à tout ce qui s'est passé dans ce pays ces dernières années. Rien ne sera plus jamais comme avant au Portugal. Nous sommes presque sur le point de gouverner, a déclaré André Ventura, le chef du parti d'extrême droite Chega. Son ambition avec les résultats législatifs d'hier n'est plus d'être la béquille du gouvernement de droite de Luis Montenegro, mais de le remplacer, confirme El País. Une exaltation à tempérer tout de même aujourd'hui par le refus explicite du Premier ministre portugais de conclure un accord avec le parti d'extrême droite. Gouverner avec Chega est impossible pour 3 raisons, a déclaré le Premier ministre sortant Luis Montenegro. Il n'est pas fiable dans sa façon de penser, il se comporte comme une girouette politique et il n'est pas apte à gouverner. Les partis politiques portugais ont par exemple dénoncé une énième provocation, rappelle le quotidien Publico, lorsque le dirigeant d'extrême droite a été hospitalisé la semaine dernière pour un spasme œsophagien et des reflux gastriques. André Ventura a été accusé d'avoir reçu un traitement VIP dans une chambre individuelle. Et il a répondu à cette controverse par ces mots. Qu'est-ce qu'ils auraient voulu? Que des gitans viennent me tuer dans un couloir? C'est ce que rapportent Correio da Manhã, Expresso et le journal O Noticias ao Minuto.
Et aujourd'hui, la presse craint une nouvelle période d'instabilité pour le Portugal.
Comme il y a un an, le Premier ministre de droite modérée, Luis Montenegro, n'obtient pas de majorité suffisante pour gouverner seul, souligne le quotidien portugais Publico. Il remporte 89 sièges sur un total de 230 dans ses législatives anticipées, provoquées par un scandale, comme l'explique le Guardian et le quotidien brésilien Folha de Boa Vista. Le Premier ministre portugais a été accusé de profiter d'une société de conseil qu'il avait fondée en 2021 avant de la mettre au nom de son épouse et de ses enfants. Soupçon de conflit d'intérêts, il n'avait pas obtenu le vote de confiance du Parlement en mars dernier. La campagne électorale a depuis notamment porté sur l'immigration, l'une des priorités de Chega, et le gouvernement a été accusé de complaisance envers l'extrême droite après avoir annoncé l'expulsion de 18 000 migrants en situation irrégulière au début du mois. Autre urgence, selon CNN Portugal, le manque de logements, la flambée des loyers qui pénalise notamment les personnes âgées contraintes de vivre dans des logements délabrés. Les services publics auraient eux aussi dû être davantage au cœur des préoccupations des politiques, estime le journal Publico, dans un pays où les services d'urgence spécialisés, notamment obstétrique et gynécologie, sont contraints de fermer par manque de personnel, pénurie également de généralistes, et cela faisait partie des thèmes de campagne que les socialistes auraient aimé porter au pouvoir. Leur leader vient de démissionner après ces mauvais résultats aux législatives d'hier. Le journal des Noticias craint une nouvelle période
période d'instabilité parlementaire donc au Portugal. Et le président Marcelo Rebelo de Sousa réunit à partir d'aujourd'hui les dirigeants de tous les partis politiques pour tenter de former un gouvernement. Merci de continuer à nous écrire à l'adresse fcrdpi@radiofrance.com. Un ou une spécialiste vous répondra dans la chronique interactive du samedi.
C'est noté. Merci Catherine Dutu.